Donc, quelles sont les instructions que nous avons reçues et que nous recevons jour après jour? Colossiens chapitre 1 et verset 28. Pour toute machine, il y a un mode d'emploi et des instructions. Il y a certaines machines que vous achetez, vous ne devez pas allumer la machine pour la première fois avec la prise, c'est-à-dire, il ne faut pas allumer sans la prise, parce qu'il y a un problème. Si vous le mettez avec la prise, d'accord. Il y a des personnes qui s'amusent à faire quelque chose, et donc voilà, il y a des instructions. Aussi, quand on achète une machine, quand on achète donc un aspirateur, quand on achète un ordinateur, quand on achète tout ce qu'on peut acheter aujourd'hui, des fois, on doit aller sur Internet et on doit dire qu'on a lu toutes les instructions, n'est-ce pas? Qu'on a lu tout. Mais on sait que quand on a vu les instructions, c'était, l'écriture était tellement fine qu'on n'a pas eu la patience de les lire. On n'a pas pris le temps de lire les 30 pages d'instructions. Et on cloche et on dit oui, on a lu. On a lu pour pouvoir passer à autre chose. D'après les instructions, vous savez, Moïse ne pouvait pas construire le tabernacle s'il n'était pas fait selon le modèle de ce qui lui avait été expliqué et révélé. Nous lisons donc cette phrase à maintes reprises depuis Exode, chapitre 25, verset 40, jusqu'à Actes 7, donc 14. Donc Hébreu a aussi donc cette expression « d'après le modèle ». Alors des fois, nous essayons de court-circuiter les modèles et faire des détours et on se dit « non, mais on se débrouillera ». Et après, on se rend compte que on n'a pas suivi les instructions. Colossiens 1, 28, « C'est lui que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisons tout homme en toute sagesse, hein, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. » C'est à quoi je travaille, disait l'apôtre Paul, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Son travail était d'exhorter tout homme et instruire tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Je veux en effet, vers chapitre 2, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence, pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que, c'est très important de noter les « afin que » dans la Bible. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Je voyais hier soir, donc, un grand chanteur chrétien, mexicain, qui a eu une influence sur des millions de personnes depuis une vingtaine d'années. Il vient de déclarer que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Mais sa louange et son adoration noient ce qu'il est en train de dire. Alors j'ai réagi tout de suite et j'ai chatté avec quelqu'un et je lui ai dit, mais fais attention, cet homme est dangereux. Parce qu'en plus, il dit que le sacrifice de Jésus n'a aucune incidence sur nous aujourd'hui. Et alors, j'ai dit à cette personne, fais attention. Et il m'a dit, oh, tu sais, moi j'écoute la louange. Si c'est bon, si c'est pas bon, c'est Dieu qui le sait. Moi j'aime bien ces chants. J'ai dit, attention, attention. Peut-être qu'il a bien commencé. Mais là, il est en train de dire, mais ouvertement, des hérésies. Et c'est pas seulement c'est pas du fake news, hein, c'est des hérésies qui vont nier la divinité de Christ. Alors là, on ne peut pas accepter que des personnes qui ont bien commencé continuent à séduire par des discours vains et séduisants. Quand je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Voyons avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Rappelez-vous, l'église de Colossiens, c'est un petit peu comme l'église de Thessalonique. Ils avaient compris beaucoup de choses. L'apôtre Paul, il est content avec l'église de Colosse. Il est content avec l'église de Thessalonique aussi. Alors il dit, mais il y a le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. D'après les instructions. Bien sûr, Proverbes chapitre 22, le livre de Proverbes nous parle beaucoup d'instructions, de sagesse, de la crainte de Dieu, par laquelle nous nous laissons aussi diriger. Et regardez avec moi Proverbes 22 et verset 17. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science. Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà, toi, mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Je veux t'instruire aujourd'hui. Ça, c'est le cœur de Dieu. Je veux t'instruire aujourd'hui. Le psaume 32, verset 8. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aurai mon regard sur toi et je serai à tes côtés pour te conseiller. Pourquoi laissons-nous la lampe de la parole, psaume 119, 105, de côté? Lampe, ta parole est une lampe à mes pieds. La lampe laquelle David décrit, certainement c'était une lampe à l'huile. Et il fallait faire un pas pour pouvoir éclairer là où on allait faire le pas, donner le pas. Mais des fois, on a tendance à laisser la lampe sur la table en disant « Oh, je me débrouillerai, je sais, je connais, j'y vais. » Et la lampe n'est plus, la parole n'est plus cette lampe à notre pied. Il est là pour nous éclairer le chemin, il est là pour nous conseiller. Esaïe 9:6, vous connaissez ce passage, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination sera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Conseiller, c'est lui notre conseiller. D'après les instructions que vous avez reçues, restez ferme, soyez enracinés. Romains chapitre 7, verset 22. Vous savez, Romains chapitre 7, c'est ce passage de la Bible qui est un petit peu ambigu, parce que quand on le lit, on est vraiment un peu dans la confusion. Vous savez de quel passage je parle, hein? Donc, à partir du verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. C'est-à-dire que si je ne nourris pas le côté spirituel, le charnel reviendra au galop, hein, c'est clair. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir, de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Vous avez ces combats des fois? Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. C'est-à-dire, c'est la nature de péché dans laquelle je suis né, qui vient donc prendre le dessus. C'est pour ça que la Bible dit en Jacques chapitre 1, chacun est tenté quand il est séduit, quand il est amorcé, quand il est pris par ses propres convoitises, il ne sait pas résister. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il cède à la tentation et cela donne lieu au péché. C'est des combats et des luttes que nous avons tous. Verset 19, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Mais regardez le verset 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Même si je vois les membres de l'homme naturel qui font la guerre, je prends plaisir à la loi de l'Éternel selon l'homme intérieur. Selon l'homme spirituel. que nous sommes. D'après les instructions que nous avons reçues, marchons-y. Les écoles de la vie. Qui est notre maître? Notre maître est Jésus. Vous vous rappelez quand Marie et Marthe étaient donc avec Jésus et donc Marthe savait qu'elle voulait faire un bon repas gastronomique et Marie était assise au pied de Jésus. Alors il s'est énervé, mais Jésus, mais tu ne te rends pas compte, Marie ne m'aide pas. Et Jésus lui dit, mais Marthe, tu te préoccupes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la meilleure part. Elle veut être à l'écoute de ma voix. Les écoles de la vie, notre maître est Jésus. Regardez avec moi en Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11 et le verset 28. Le verset 25 nous dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché des choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et là vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Notre maître est Christ. Nous sommes en joug avec lui. Et nous recevons ses instructions. Car il est doux et humble de cœur. Seigneur, apprends-moi à prêcher. Apprends-moi à chanter. Apprends-moi à jouer un instrument. Apprends-moi à ceci. Apprends-moi à cela. Il nous dit tout simplement, apprenez à être doux et humble de cœur. Si on remplit ces deux critères, je crois que, aux yeux de Dieu, nous avons beaucoup, beaucoup conquis dans notre territoire. Deux choses, doux et humble de cœur. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Soumettez-vous à moi. Soumettez votre cœur à ma volonté. Vous connaissez ce verset auquel je fais référence souvent, Job chapitre 23, verset 12. Je fais plier ma volonté face aux paroles qui sortent de sa bouche. Plie ta volonté. Je fais plier ma volonté face aux paroles qui sortent de sa bouche. Seigneur, je veux prendre ton joug sur moi afin que je puisse apprendre comment marcher, comment proclamer, comment vivre dans la liberté. Je prends mon joug sur toi. Tu es mon maître. Éphésiens 4, 20 nous dit, si vous avez appris Christ, vous avez compris les choses. Éphésiens 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit, encore l'instruction, à vous dépouiller au égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et vous avez été aussi instruit à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Avons-nous appris Christ? Notre vie manifeste cette vérité. Avons-nous revêtu l'homme nouveau? J'ai prêché par rapport à l'homme nouveau lorsqu'on était à l'église chinoise. Si on veut se renouveler, si on veut se revêtir, il faut se dépouiller de l'ancien. Et les questions et les luttes que nous avons dans notre âme, c'est par rapport à l'homme ancien, à l'homme naturel, à l'homme qui par nature, nous sommes des enfants des péchés. Et alors, ce qui se passe, c'est que si nous ne nourrissons pas l'aspect spirituel dans notre vie, l'homme charnel revient au galop. Mais si vous avez appris Christ, hein, si vous l'avez entendu, Si vous avez suivi l'exemple et les instructions qu'il vous a données dès vous dépouiller à l'égard de votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Le vieil homme, il ne va jamais changer. L'homme naturel, il sera toujours le même. Lui, il se corrompt par les convoitises trompeuses. Mais si nous sommes renouvelés dans l'esprit et dans notre intelligence, et nous revêtons l'homme nouveau créé selon Dieu, il aura une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncer au mensonge, verset 25. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Attention. La colère, j'ai entendu dire quelqu'un dire, c'est une bonne émotion, mais il faut la canaliser. Il faut savoir la gérer. Peut-être la colère nous pousse à aller vers des personnes qui sont dans des injustices et on agit, et donc c'est quelque chose de positif. Mais si on permet que la colère nous mène jusqu'au péché, attention, on risque de donner accès au diable. Ça ne veut pas dire que le diable va venir en nous. Ça veut dire qu'on va ouvrir une porte et qu'il y aura de l'oppression, de l'opposition, de l'obsession qui viendra. Si vous avez appris Christ, vous ne permettrez pas que le soleil se couche sur votre colère. Si vous avez appris Christ, celui qui dérobait, qui avait l'habitude de voler, ne dérobe plus. Mais plutôt, il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui vous entendent. Ça, c'est les instructions que nous avons reçues de Christ. N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Vous pardonnons réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Dieu, en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité. Les instructions, si vous avez appris Christ, si nous avons appris Christ, alors ce que nous entendons, ce que nous voyons de Jésus, ce que nous touchons concernant la parole de vie, ce que nos yeux contemplent, si nous l'annonçons à d'autres personnes, selon 1 Jean chapitre 1 verset 3, eux aussi, ils seront en communion avec nous. Notre communion est avec le Père et avec le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je veux vivre pour que d'autres personnes soient en communion avec nous. Moi, je veux vivre pour que d'autres personnes puissent entendre et voir ce que moi, j'entends et ce que je vois et ce que je communique et ce que je transmets et que eux, leur désir soit « Moi, je veux connaître ton Dieu. Je veux marcher avec Dieu comme toi, tu marches avec Dieu. Je veux lire la Bible comme toi, tu la lis. Je veux vivre dans la victoire comme toi, tu le vis. » Pourquoi ? Parce que nous avons appris Christ. Alors, nous sommes à l'écoute. Il y a l'école de la souffrance aussi. Nous apprenons beaucoup de choses dans l'école de la souffrance. Le psaume 119, verset 71 nous dit « Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. » Il est bon pour moi d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. L'école de la souffrance. Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et pourtant, il n'avait pas en lui la nature de l'homme pécheur. Il n'avait pas à obéir parce que il obéissait, c'était sa nature. Mais il a dû apprendre l'obéissance en disant, Père, Père, pas ma volonté, mais la tienne. Et j'obéirai à ce que tu diras. Il a pu l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Mais dans l'école de la souffrance, nous sommes consolés. Alléluia. Dans l'école de la souffrance, nous sommes consolés. 2 Corinthiens chapitre 1 nous dit que si nous sommes consolés, c'est afin de pouvoir consoler les autres. Comment as-tu fait lorsque tu es passé par l'école de la souffrance, l'école de l'humiliation? Demandons aux personnes qui sont persécutées jour après jour. J'ai lu cette semaine, c'est donc, c'était pas porte ouverte, mais c'est un autre organisme qui n'est pas forcément chrétien, qui constate que l'année 2018 a vu la mort de 105 000 personnes persécutées pour leur foi. Moi, j'étais vraiment choqué. J'avais entendu d'autres chiffres à d'autres moments. Mais imaginez de parler à la femme d'un pasteur. En Colombie, il vient de tuer deux pasteurs qui faisaient l'œuvre de Dieu, qui ont été tués par balle. Imaginez d'aller vers leurs femmes, leurs enfants, parler avec eux, être instruit par rapport à ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent, et même des années après, par rapport à ceux qui ont déjà souffert de la persécution. Qu'est-ce qu'ils ont appris à l'école de la souffrance? Comment ont-ils été consolés? Je ne peux pas l'imaginer. Mais la persécution, elle est évidente, elle est présente. Ne pensons pas que c'est si loin. Prenez la revue de Porte Ouverte, priez. Il y a un calendrier donc journalier pour chaque mois. Priez pour ces situations, priez pour ces personnes, priez pour ces églises, priez pour ces pays. Ils sont dans l'école de la souffrance. Et peut-être vous seriez étonné qu'ils vous diraient « Ah non, mais c'est rien ça, comparé à la gloire qui nous attend, c'est rien. Ah non, mais c'est rien. On a été considérés dignes de souffrir pour la cause de Christ. » 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous aurez aussi part à la consolation. Il nous console dans nos afflictions afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler que ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Ah Seigneur, donc ça veut dire que si je passe par l'école de la souffrance, au bout, je vais rencontrer quelqu'un qui peut-être souffre plus que ce que j'ai souffert. Et je vais pouvoir m'identifier, et je vais pouvoir me mettre à genoux à côté d'eux, et les relever, et les consoler, et leur dire de ne pas s'inquiéter, leur dire que tu es fidèle, leur dire la manière comme toi tu m'as consolé. Et on peut apprendre les uns des autres. Mais on était tous humiliés afin qu'on apprenne ces statuts. L'école de la discipline. La réprimande en amour, c'est une école. Hébreux chapitre 12 nous dit qu'on n'est pas des enfants illégitimes. Donc puisque nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons droit à la correction et à la discipline. Des fois, la souffrance, la Bible dit, c'est à cause de notre manque de prudence, c'est notre manque de sagesse. Des fois, on a des souffrances gratuites. Vraiment, on n'a rien à voir avec la situation, mais on est en souffrance, c'est des souffrances gratuites. Vous avez vécu des souffrances gratuites des fois? Et vous vous dites, mais Seigneur, mais vraiment, vraiment, je ne suis pas parfait, mais je sais que je n'ai pas cherché cette fois-ci à souffrir de cette manière. Mais il dit en Hébreux chapitre 12, verset 5, et vous avez oublié l'exhortation que vous êtes adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on parle, vous êtes donc considérés comme des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, bien plus forte raison, nous soumettre au Père des Esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. L'école de la discipline. Quel est le but recherché? Afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Il y a un couple qui devait adopter une fille. Ils n'avaient que des garçons à l'époque, 5 garçons. Et donc, ils voulaient adopter une fille. Et alors, cette fille, elle a vécu avec eux pendant 6 mois, avant le jour déclaré de l'adoption. Et alors, les frères aînés voyaient qu'elle pouvait faire des bêtises et on ne la corrigeait pas. Quand eux, ils passaient donc à la fessée, elle ne passait pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ils disaient, mais non, elle n'est pas encore notre fille. Hein. Elle est ici pendant 6 mois. Donc il faut vraiment qu'on la traite comme une princesse. Il ne faut pas qu'elle se plaint, qu'on la grondait, etc. Mais alors pendant 6 mois, il fallait attendre. Et le jour est venu quand le couple et les 5 enfants sont allés devant le juge avec elle. Elle a été nommée leur fille. Ils arrivent à la maison. 10 minutes après, la fille, elle court en pleurant vers la maman. Pourquoi? Parce qu'elle est arrivée à la maison, elle avait fait une bêtise, et là, le père l'a pris et lui a donné une bonne fessée. Elle a dit, je suis votre enfant. Elle avait compris que être enfant impliquait correction, devoir, responsabilité. Alors l'école de la discipline, il y a tellement de disciplines. La discipline de l'attente, la discipline de mépris, la discipline de l'opposition. Il y a la discipline de l'attente par rapport à la prière qu'on a exaucée, qu'on a prononcée. Il y a tant de disciplines dans la vie chrétienne. L'école de la discipline, d'après les instructions que vous avez reçues. Il y a aussi l'école du contentement. Paul, en Philippiens chapitre 4, vous connaissez tous ce passage. Chapitre 4 nous dit, commence en disant, qu'est-ce qu'il commence à dire? Réjouissez-vous, verset 4, dans le Seigneur, et je le répète, réjouissez-vous. C'est intéressant quand on voit les répétitions. En vérité, je vous le dis, il y a quelque chose que Jésus voulait vous dire. Mais là, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ensuite, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître en toutes choses vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. N'oubliez pas les actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est aimable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu, et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Alors, nous savons qu'il y a eu des moments quand l'apôtre Paul passait dans les églises pour ramasser des fonds, pour pouvoir aider les chrétiens en difficulté, les chrétiens qui étaient dans la persécution. Mais là aussi, donc, l'église de Philippe donc avait pris à cœur de soutenir donc l'apôtre Paul, d'après ce qu'on voit ici. Et il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Philippiens 4, 11. Verset 12, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Et dans ce contexte, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est par rapport au contentement. Le contentement, c'est la piété, pardon, c'est le contentement. Donc, il y a un grand gain devant Dieu. Une vie qui est dans le contentement. L'école du contentement nous pousse à comprendre que tout ce que Dieu fait passer par nos mains, c'est afin que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Et au verset 19, il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ, à notre Dieu, et perçoit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il y a beaucoup à dire sur le contentement. étudier le contentement. Achetez un livre sur le contentement dans la librairie chrétienne. Il y a beaucoup à dire par rapport au contentement. C'est pour ça qu'un des commandements, c'est de ne pas convoiter la propriété, les choses qui appartiennent à ton voisin. C'est un commandement. C'est donc ce qui, c'est le contentement qui viendrait comme antidote à la convoitise. Le contentement dans notre cœur, c'est quelque chose qu'on apprend d'après les instructions que nous avons reçues. Qui est notre maître par excellence? Qui est notre professeur? C'est le Saint-Esprit. Jean chapitre 14, verset 26 nous dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Vous vous rappelez, à un moment donné, il dit « Il y a des choses que j'aimerais vous dire, mais vous ne pouvez pas les recevoir. Vous n'êtes pas assez mature pour. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira à toute la vérité. » Nous ne pouvons pas nous arrêter et dire, voilà, j'ai déjà passé certains examens, j'ai déjà donc été validé, donc à INSTE, validé à l'école biblique, validé à ci, validé à ça. Mais non, on est toujours des apprentis. On est toujours en train d'apprendre. La Bible dit en 2 Timothée chapitre 2, verset 14, efforce-toi. Étudie, il dit en espagnol et en anglais. En français, il dit efforce-toi. De te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a point à rougir, car il sait dispenser droitement la parole de la vérité. D'après les instructions, efforce-toi, connais la matière, étudie, afin que tu n'aies point à rougir comme un ouvrier qui sait dispenser droitement la parole de la vérité. C'est un apprentissage constant, jour après jour, après jour, après jour. Mon père, c'était quelqu'un qui connaissait la moitié de la Bible, par cœur, facilement. Vous commencez à citer des versets dans les prophètes mineurs et il est complété. Mais c'était quelqu'un qui ouvrait tous les jours, la parole. Ces Bibles, elles étaient bien, bien, bien donc usées. Mais alors, il savait que c'était la parole de Dieu, c'est lui qui nous inspirait par ce verset de Ésaïe 55, quand il dit que la parole de Dieu ne peut pas revenir sans avoir produit un effet chez ceux qui l'entendent. Alors saisis toutes les occasions pour pouvoir citer un verset de la Bible. Cite ce que tu as reçu de la part du Seigneur, parce que cette parole ne peut pas revenir sans avoir produit un effet chez ceux qui l'entendent. Et c'est pour ça qu'il y a un amour pour la parole de Dieu. Je vous ai encouragé à la mémorisation du psaume 119. Ce matin, vous aurez reçu la feuille qui allait du verset 37 au verset 51. Elle est déjà faite, mais bon, vous l'aurez donc pour le dimanche prochain. Alors, même si vous n'arrivez pas à mémoriser, parce que c'est un long chapitre, je le sais, mais lisez cette feuille une fois par jour au moins. Et il y a des choses qui vont commencer à rester dans votre cœur. Dans ce passage qu'on va mémoriser le mois d'avril, il y a des phrases qui sont frappantes. Hein. Je vais vous lire deux, trois. Allez au psaume 119, verset donc 37, 38. Alors, rappelez-vous que dans la feuille, vous avez en rouge les verbes, les attitudes du cœur que nous avons envers la parole. Et souligné, nous avons la description de ce qui est la parole. Alors, il dit ici, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Verset 46, je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. Qui c'est qui va aller devant les rois? Qui c'est qui va aller devant les présidents? Qui c'est qui va aller devant les grands de ce monde? Je marcherai au large quand je recherche tes ordonnances. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, verset 48. Et je veux méditer tes statuts. Verset 50, c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. En lisant ces passages, au moins une fois par jour, pendant les 30 ou 31 jours du mois, ou 28 jours pour le mois de février, moi je désire qu'il y ait des brins de vérité qui restent dans votre cœur. Que vous puissiez grandir dans votre connaissance et grandir dans votre désir de recevoir les instructions de Dieu. Car un jour, nous allons rendre des comptes. Nous allons rendre des comptes. Nous allons être jugés par rapport à la vérité que nous avons entendue, par rapport au trésor que nous avons reçu. C'est pour ça que la Bible dit que tout le monde ne se met pas à enseigner, parce que celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement. Parce qu'en plus de le transmettre, il a passé des heures et des heures à avoir cette révélation, à comprendre et à se dire. Et c'est là où la Bible dit, mais ceux qui enseignent vont être redevables par rapport à ce qu'ils enseignent. Les différents appels que Dieu a sur notre vie engagent une responsabilité importante à ses yeux. Alors, marchons d'après ses instructions. Gardons ses instructions, gardons sa parole, parce que cela produit une joie ineffable. Et je vais finir avec Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 qui est le passage qui nous dit que Jésus est le vrai cep, son père est le vigneron et nous sommes ses sarments. Et verset 7 nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé, c'est par rapport à la prière. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Il faut que les disciples portent du fruit. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alléluia. La joie de l'Éternel est ma force. Alléluia. Donnons la joie à son cœur et que notre joie soit parfaite. Seigneur, nous voulons marcher d'après les instructions que nous avons reçues. Combien de fois nous apprécions le thème qui a été abordé. Et parfois on est même poussé à faire des recherches aujourd'hui avec les technologies qu'on a. Aller sur Google et regarder tous les versets qui parlent par rapport à ça et aller sur la Bible online, etc. Donc, il y a vraiment une capacité aujourd'hui de pouvoir aller dans la recherche profondément. Mais si nous allons dans la recherche profondément, c'est afin que nous puissions demeurer en ta parole. C'est afin qu'on puisse apprendre tes statuts. C'est afin qu'on puisse donner aux autres envie de te découvrir et de te connaître. Seigneur, tu te révèles à chacun de nous d'une manière précise. Mais Seigneur, nous avons tant de richesses ici. Nous avons tant de révélations que nous avons reçues de ta part. Nous avons tant, Seigneur, de moments Seigneur, dans lesquels ton Saint-Esprit est venu et nous a chuchoté à l'oreille, nous a parlé. Et dans notre intimité avec toi, Seigneur, tu nous as fait grandir. Nous voulons te voir. Nous voulons apprendre de toi. Nous voulons marcher selon tes instructions. Et c'est ainsi que nous ne serons pas séduits par les fausses doctrines. Car les fausses doctrines existent. Ta parole nous dit en Amos que le jour viendra quand tu vas envoyer une famine sur la terre. Une famine et une disette de ta parole. Et les gens iront d'une mer à l'autre. Iront de ville en ville pour chercher la parole. Et ne la trouveront pas. Et aujourd'hui, Seigneur, comme pour le prophète, c'est une réalité que nous commençons à constater. Qu'il y a beaucoup d'églises dans beaucoup de pays. On ne prêche plus la parole. On ne met plus l'accent sur les instructions que tu nous as laissées. Pourtant, tu as dit à Moïse, le tabernacle sera construit d'après les instructions que je vous ai données. Tu as dit à Salomon, le temple sera construit seulement d'après les instructions, le modèle que je vous ai donné. Car sinon la gloire de Dieu ne pouvait pas se manifester. Sinon la présence de Dieu ne pouvait pas se trouver dans l'arche de l'Alliance. Il fallait que ça soit dans une obéissance absolue. Et nous, Seigneur, marcher dans l'obéissance par la joie. Et que le résultat soit la joie dans notre cœur. Viens, Esprit de Dieu vivant. Sois le maître en nous. Sonde-nous, courbe-nous, brise-nous, façonne-nous. En tant qu'élève dans ton école, en tant que disciple qui écoute la voix du maître. Et comme il est dit en Ésaïe 50 et verset 4, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache encourager, édifier celui qui est dans l'abattement. L'Éternel éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme il se doit à des vrais disciples d'écouter. Seigneur, aide-nous dans nos imperfections, aide-nous, Seigneur, dans nos faiblesses, aide-nous, Seigneur, dans nos négligences, aide-nous, Seigneur, à avancer, aide-nous à aller plus haut avec toi, Seigneur. Alléluia. Que nous voulons que ton souffle nouveau, Seigneur, soit notre partage, soit notre vie, soit notre expérience. Parle à nos cœurs chaque instant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On peut chanter le souffle nouveau.